Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2, votre format hors-série de ZQSD, avec ce mois-ci un nouvel entretien de deux personnes que je suis particulièrement fier et content de rencontrer. Avant de les présenter, je vais quand même présenter mon camarade qui est là, Monsieur Corentin, ça va ?
Bonjour JK, ça va et toi ?
Bah ça va, je sais que t'es en vacances et t'interromps tes vacances pour travailler. Alors, je mets des guillemets,
ouais.
Travailler.
Ouais, je me réveille à 5h du mat pour préparer cette interview, j'ai cravaché comme un fou. J'ai commencé par aller courir 2h pour vraiment me mettre dans les conditions. Ouais, bah, et ça y est, là je suis prêt.
Professionnel jusqu'au bout. Donc merci d'être avec moi et surtout donc je vais présenter nos deux invités. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Saint-Gelin et Eric Olvec. Tu vois, je me suis planté. On a vu juste avant, j'ai réussi à me planter. Donc Guillaume Saint-Gelin, pardon, et Eric Olvec. Vous avez tous les deux travaillé sur un jeu que j'ai fait récemment et que j'ai adoré, un jeu qui s'appelle Citizen Sleeper. Je pense que si vous écoutez ZQSD, vous avez au moins entendu parler de ce jeu et si vous n'y avez pas joué, jouez-y immédiatement parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. Guillaume, toi donc tu as été en charge la direction artistique et surtout du character design des personnages parce que c'est un jeu où les personnages ont une importance extrême, une très grande importance. Et Eric, toi, tu as fait la traduction française parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le jeu est sorti en 2022, si je n'ai pas de bêtises, et il était en anglais pendant très longtemps et la traduction française est toute récente, elle a un mois à peu près. Voilà, donc déjà bonjour messieurs, très content de vous recevoir.
Bah salut, puis bah merci pour l'invitation, ça fait super plaisir.
Bah écoute, ouais. Avec grand plaisir.
Bonjour à tous. Alors, et merci. Oui.
Merci à vous encore une fois. Alors si vous voulez, on va commencer tranquillement par parler un peu de Citizen Sleeper, évidemment votre travail dessus, et puis après on va sans doute étendre un peu plus à vos métiers, parce que vous avez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux métiers qui sont très différents, mais vous avez travaillé sur le même jeu, donc on va essayer un petit peu de voir ce que vous faites un peu, voilà, au-delà un peu de Citizen Sleeper. Déjà, question toute bête pour commencer. Comment ça a démarré ce projet Citizen Sleeper, notamment toi, Guillaume, pour commencer? T'as été contacté par le créateur du jeu, c'est une rencontre, tu peux me dire comment tout ça a démarré?
Ouais, bah en fait, moi, je connaissais le précédent jeu de Gareth, donc le créateur du jeu, c'est quasiment le seul développeur du jeu, hein. Faut se dire que c'est vraiment une personne derrière ce projet. Il avait sorti un jeu qui s'appelait In Other Water. Et moi, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé, qui se passait sous les mers, qui était très narratif et qui était étonnamment, justement, pas du tout figuratif visuellement. Et moi, je trouvais ça vraiment super intéressant, justement, visuellement. Et je m'étais amusé à faire un petit fan art de son jeu que j'avais posté sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai été contacté par son éditeur, qui voulait me racheter l'ILU pour faire un peu de promotion. Et en fait, ils nous ont mis en contact avec Gareth. Et je me suis aperçu que Gareth connaissait mon boulot, parce que je fais de la BD à côté, et il connaissait mes projets de BD. Et voilà, en fait, on a commencé à discuter ensemble, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de choses en commun, notamment artistiques. Et c'est en fait quelques mois plus tard, il m'a dit, bah voilà, je bosse sur un nouveau jeu, j'aimerais t'en faire part et t'intégrer à l'équipe, quoi. Donc c'est. Moi, au début, j'étais un peu. J'étais super touché, parce que c'était vraiment quelqu'un que nous, j'apprécie beaucoup le travail. En même temps, ce que j'avais aimé dans Another Water, c'est qu'il y avait zéro personnage, quoi. Il y avait zéro dessin. Ouais. Et je trouvais ça, en fait, c'était ça qui était fort dans le côté imagination. Et le fait de me dire, bah, que je vais travailler sur son prochain jeu, mais je vais devoir rendre ça figuratif, ça me faisait un peu bizarre au début. Mais en fait, très vite, c'était vraiment très agréable de bosser avec lui, quoi. Donc voilà.
Ça a été un match évident en termes de ouais. Travail. C'était ton premier jeu. Enfin, est-ce que tu avais déjà travaillé sur un jeu vidéo avant celui-là?
Ouais, j'avais fait quelques. Moi, j'ai surtout bossé sur des petits key art en fait de jeux, donc des petits jeux indés qui cherchent donc l'espèce de petite couverture qu'on trouve sur Steam et compagnie. Donc, j'avais fait 2-3 key art à droite à gauche. J'avais bossé sur un jeu qui s'appelait Bravery Network Online, qui était un jeu un peu de versus cartes online, qui hélas a un petit peu du mal à se lancer, mais voilà, j'ai eu quelques expériences quand même avant.
D'accord. Toi, Eric, du coup, c'est différent puisque donc la traduction, ça a mis presque 2 ans. Et effectivement, alors déjà, comment ça se passe dans ces moments-là? Est-ce que tu réponds à un appel d'offres? Est-ce que c'était le studio qui te connaissait déjà, qui t'a contacté directement? Ça se passe comment quand on se lance dans un projet pareil?
Là, en fait, moi, j'ai reçu ça par le biais de RiotLock, donc une société de localisation pour laquelle je travaille, pour laquelle je gère l'équipe française. Nous avons reçu le jeu un peu avant les grandes vacances, en 2023, si je me rappelle bien. Donc, c'est eux qui l'ont, je pense qu'ils ont vu ça avec Fellow Traveler, qui édite le jeu.
D'accord.
Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont récupéré la traduction. Et je crois que c'est une traduction pour ce qui est du français qu'on doit en grande partie à Guillaume, d'ailleurs. Parce que la traduction, étonnamment, a juste été choisie. Enfin, Fellow Traveler a juste décidé au début de traduire le jeu en français, chinois et japonais, ce qui ne correspond pas du tout aux langues habituelles. Je veux dire, l'allemand ne fait pas partie du premier lot. On ne sait pas si ça va être ajouté après, mais d'habitude, c'est vraiment la langue prioritaire. Et là, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, le français a été choisi parce que. Pour le fan club de Guillaume, qui apparemment avait remonté sur ses réseaux sociaux beaucoup de demandes de traduction du jeu.
D'accord, ouais, c'est pas pour que Guillaume comprenne le jeu.
Évidemment, ça m'a bien aidé. Hein.
C'est de dire ça parce que franchement, moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai regardé sur Steam, quand j'ai vu le pitch et ainsi de suite, je me suis dit ok, celui-là, il faut qu'on le prenne et qu'on le bichonne. Quoi, parce que clairement.
Vous ne serez peut-être pas les mieux placés pour répondre, mais moi je me demande qu'est-ce qui fait qu'un éditeur décide de traduire, parce que c'est, j'imagine, la décision d'un éditeur, décide de traduire un jeu un an et demi après sa sortie. Ouais, j'imagine que ça coûte des sous. Du coup, il faut qu'il y ait un succès en face, mais j'imagine que le succès, moi j'aurais cru que soit on avait un gros budget et on pouvait traduire en amont, soit le succès du jeu s'imposait de lui-même au bout de quelques semaines peut-être et que du coup on disait on lance une VF ça m'étonne ce timing, moi un an et demi, mais ça m'étonne parce que je ne sais absolument pas comment ça marche cette industrie, en tout cas au niveau de la localisation. Peut-être que vous pourrez m'éclairer, peut-être qu'il vaut mieux que je demande à l'éditeur pour savoir.
Moi, de mon côté, ce que j'ai compris, c'est que bon, déjà, c'est vrai que c'est un jeu qui reste un jeu de niche. Donc forcément, je pense que débloquer un budget pour traduire un jeu qui est comme ça, c'est une vraie question qu'on se pose.
Avec beaucoup de mots, beaucoup de textes en plus, quoi.
Eric, ouais, pour un témoigner, c'est que c'est un jeu qui est quasiment un roman. Donc c'est vraiment pas de la petite traduction. Et je ne sais pas si toi, Eric, tu as eu des contacts avec Gareth par rapport à la traduction, mais c'est vrai que Gareth, en fait, quand il a fini le jeu, lui, il a enchaîné ensuite sur quasiment 6 mois de développement sur les DLC qui sont sortis comme ça à peu près tous les 3 mois. Donc il y avait 3 épisodes en plus.
Et c'est vrai qu'il y avait ça.
Et donc voilà, lui, après la sortie, il a eu encore du temps de travail. Déjà, il y avait aussi la correction un peu de bugs. Et voilà, en plus, lui, il commençait à réfléchir à son épisode 2. Et en fait, je pense qu'il voulait aussi être un peu présent. Dans les échanges par rapport à la traduction, parce que c'est la traduction qui est de littéraire, donc en fait il faut qu'il soit un peu encore une fois, voilà, il est tout seul à gérer le projet quasiment, enfin principalement, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un délai. Et c'est vrai, comme tu disais avant sur le côté que la traduction française a été choisie parce que moi je participais au projet, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a vu au fur et à mesure des mois de la sortie du jeu, où moi j'ai pu commencer à drainer doucement le public français parce que j'en parlais sur mes réseaux, parce que je fais de la BD et les gens connaissent mon travail là-dessus. Donc je pense que c'est un public qui s'est créé doucement en fait aussi, et qui est une sorte d'attente qui s'est créée au fur et à mesure des mois, et c'était pas un plan d'origine, quoi.
Eric, tu penses la même chose ?
Ouais. Bah oui. Alors pour répondre déjà à ce que tu disais, Guillaume, oui, Gareth a été très présent pendant le processus de traduction. C'est-à-dire qu'il était là en fait. On pouvait le contacter quand on avait des questions. Donc on n'a pas eu des tonnes, mais c'est vrai qu'on a eu des contacts avec lui. C'était très agréable d'ailleurs d'avoir le développeur. C'est quand même les conditions idéales, je dirais, pour quand tu as des soucis de traduction, de pouvoir demander directement aux personnes qui savent.
C'est pas toujours le cas
ayant virtuellement tout fait tout seul. C'est sûr qu'il n'y avait pas de meilleur interlocuteur pour nous, quoi. Et après, pour ce qui est de la mise en chantier de traduction, c'est vrai que comme Corentin disait, il y a eu 2 ans à peu près, ou pas loin, et de ce que j'en sais, le jeu a bien fonctionné en anglais, mais après le fait est qu'il y a vraiment beaucoup de texte dedans, donc le coût de la localisation, c'est vrai, est important, et donc je pense qu'il y a dû y avoir une étude de marché. Alors maintenant, pourquoi ce timing, pourquoi début 2024 et pas avant, pas après, je n'ai vraiment aucune idée, quoi.
C'est peut-être pas parce qu'il y a Cities of Sport 2 qui arrive probablement cette année et qu'ils voulaient. Et un truc tout bête, c'est que c'est quand même un jeu, effectivement, il y a quand même la barrière de la langue, parce que c'est déjà très écrit, et surtout c'est de l'anglais assez soutenu, donc il faut quand même avoir un niveau d'anglais assez bon. Donc j'imagine que forcément, quand tu traduis en 3 langues, Alors j'imagine que s'ils ont choisi chinois, japonais, c'est aussi parce qu'ils savent qu'il y a un public là-bas. Ça multiplie ton public potentiel, et j'espère que ça va être le cas d'ailleurs avec ces trades, hein, que les ventes vont augmenter drastiquement, quoi.
Et puis je dirais, pour rebondir sur ce que tu disais sur le niveau de la langue, en plus, Citizen Sleeper est quand même un jeu très particulier dans le sens qu'il n'y a que du texte. Enfin, bon, il y a une petite mécanique de gameplay avec l'assignation des dés et ainsi de suite, mais il y a d'autres jeux où il peut y avoir un niveau d'anglais assez relevé, où tu peux te débrouiller en comprenant vaguement les missions qu'il faut effectuer, et tu te débrouilles avec le gameplay après en enchaînant les combats ou je ne sais quoi. Citizen Sleeper, si tu n'arrives pas à bien comprendre le texte, tu passes à côté de tout le jeu, quoi, en gros. Donc c'est vrai que...
JK, jamais dans ma vie je me permettrai de remettre en cause la façon dont tu fais un conducteur d'un podcast, mais moi je sais qu'en tant qu'auditeur là, j'aurais été content qu'on me dise un peu à quoi ressemble le jeu si jamais je n'y avais pas joué.
J'avoue qu'on n'a pas pitché le jeu. Alors si vous voulez,
j'aimerais bien qu'on nous...
Oui, c'est vrai, je vais quand même rappeler, parce que je l'ai fini récemment en plus. Donc c'est un... Alors vous allez me dire, Guillaume, Eric, si je me trompe pas, mais donc c'est un, j'appelle ça un RPG narratif qui s'inspire un peu en termes de mécanique d'un jeu de rôle sur table, dans le sens où il y a des dés, comme tu dis, pour faire des actions, même si c'est pas comme un Baldur's Gate où tu vas vraiment lancer des dés. C'est vraiment chaque valeur de dés va plus ou moins faire que ton action est réussie, voilà. Et ça se passe, donc c'est de la science-fiction, tu incarnes un personnage, donc un dormeur qui est une sorte d'androïde, là je résume, hein, parce que sinon ça va être compliqué, qui se réveille sur une station spatiale et qui va tout simplement apprendre à vivre sur cette station et faire sa vie sur cette station.
Donc, il va devoir bosser notamment, c'est vraiment un jeu sur le boulot. C'est pour ça que ça me fait un peu chier d'en parler en vacances, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, au début il va avoir des petits boulots, il va rencontrer des gens et va se construire toute une histoire, son histoire avec le joueur. C'est un jeu où il y a des choix aussi assez importants. Donc voilà, c'est pour les joueurs qui ne veulent pas du tout ce que c'est, pour moi c'est... Alors, je sais pas si c'est je pense que c'est un compliment, mais c'est un peu le Disco Elysium de la science-fiction, dans le sens où c'est un jeu où il y a beaucoup beaucoup de texte, c'est vraiment, tu passes ton temps à lire. Alors il y a moins de mécaniques RPG que, je pense, Disco Elysium, mais voilà, et je pense qu'en termes de traduction, comme Disco Elysium, c'est un jeu qui demande beaucoup beaucoup de temps, quoi, parce que c'est quand même très très écrit. Voilà, donc ça, voilà, j'espère que j'ai bien décrit le jeu, mais
ouais. Après, je précise aussi que comme c'est aussi un jeu où tu surplombes l'action, un peu comme In Other Waters, son jeu précédent, un tout petit peu. C'est un jeu où tu surplombes l'action, tu vois la station spatiale sur laquelle tu es de loin, tu vois pas du tout à hauteur d'homme, et tu vas juste cliquer sur les bâtiments sur lesquels tu veux interagir avec, je sais pas, le serveur d'un bar ou l'employeur de un mec d'une mafia quelconque. Moi, je l'ai fait il y a un an, le jeu, donc il n'y a peut-être pas de mafia dans ce jeu, j'en rappelle plus. Mais il doit y avoir des mafias. Et en fait, il y a un côté visual novel, c'est vraiment que du texte, que des dialogues, enfin que du texte, et ça passe essentiellement par le texte. Tu ne vas pas cliquer là, tu ne vas pas diriger ton personnage comme dans un RPG à la Disco Elysium. Mais en revanche, effectivement, les dialogues ont énormément d'embranchements, et tu dois aussi, il y a un petit volet gestion de ta vie quotidienne, parce que tu dois gagner de l'argent pour effectuer différentes tâches, déjà te nourrir, mais aussi c'est de l'argent qui peut te servir pour améliorer, acheter des pièces de... Bon, putain, c'est là que ça montre un peu les limites, j'ai pas joué depuis un an, mais je rappelle que t'achètes des choses. Waouh, j'ai le pire test du jeu de l'histoire, je suis désolé. Mais donc, du coup, t'as quand même un petit volet gestion du quotidien qui est géré effectivement par des lancers de dés, des réussites et des échecs que tu peux avoir. Et c'est vraiment un jeu qui joue. Moi, j'avoue que c'est ce pourquoi j'y suis venu en deux temps à ce jeu. La première fois, je l'ai lancé. Et je me suis dit, ça a l'air d'être trop visual novel pour moi, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, en insistant un tout petit peu, que c'est un jeu qui est très jouant, dans lequel tu as vraiment un vrai volet gestion, échec, et surtout, moi, ce qui me passionne dans le RPG, au final, le jeu n'est que ça, c'est comment tu peux influencer une histoire, ne serait-ce qu'en... avec tes choix, en fait, et tes choix de dialogue, et ça, c'est intensément RPG. Et moi, je trouve ça, effectivement, très cool. C'est-à-dire, on a peut-être... Enfin, moi, j'en ai suffisamment parlé, je vous embête plus.
Il y a un côté un peu Lee Dong, vous êtes le héros, c'est presque une sorte de grand roman de science-fiction où tes actions, en fait, vont aller piocher un chapitre à un autre. Et voilà, si tu veux plus creuser telle relation avec tel personnage, bah, tu vas piocher un peu ces chapitres-là, entre guillemets. Donc, c'est vrai que, comme dirait, c'est vrai que le cœur du jeu, le cœur du gameplay, c'est lire ces textes et aller creuser, en fait, quelle trame narrative tu as envie de faire. Et effectivement, il y a des questions de choix, c'est une mécanique de dés qui permet de lier tout ça et de donner... moi, je trouve qu'au-delà même d'une mécanique de jeu, c'est plus créer ce sentiment justement de travail et de labeur, qui est aussi une thématique du jeu. Voilà, c'est où il y a quelque chose de répétitif dans ces petites actions qu'on fait, parce que voilà, c'est ce côté geek job, enfin un petit boulot que dont parle beaucoup Garrett, donc c'est presque un lien narratif en fait pour moi, le gameplay, que vraiment un gameplay pur et dur, quoi.
Et d'ailleurs, Guillaume, justement, comme pardon Eric, tu voulais rajouter quelque chose peut-être, non?
Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à fait. Il y a en effet juste cette petite mécanique d'assignation de dés, moi, qui me fait très penser à certains jeux de société, plus que des jeux de rôle, en effet, où on va pouvoir voilà. Et après, ce sont elles qui déterminent la réussite ou l'échec de l'action. Mais en général, même l'échec est souvent une réussite. On va dire relative. Il est rare qu'une action rate vraiment. Et après, en effet, ça, comment dire, nos choix sont guidés, c'est vrai, par les choix qu'on fait dans le texte. C'est plus une histoire d'intégration sociale, en effet, dans un milieu assez étrange, dans cette espèce de station spatiale loin de tout, où le personnage, pareil, ne sait pas où il se situe dans la société, comment il peut éventuellement tisser des relations et puis vivre sa vie, alors que son corps n'est pas lui-même dans un état exceptionnel et qui doit faire en sorte de gérer la mécanique, on va dire. Et oui, quand Guillaume parle d'un livre dont vous êtes le héros, oui, c'est vraiment l'effet que ça donne, quoi, clairement. Clairement, mais c'est amusant parce que le jeu pourrait exister sur son seul texte, je dirais. Ce serait aride, ce serait juste un bloc, mais tout le gameplay est là. Mais après, comment dire, il y a l'art de Guillaume et puis il y a la musique d'Amos Roddy qui donne toute l'ambiance autour et qui fait qu'on est complètement plongé dans ce monde, quoi, en fait. Qui donne cœur à cet univers, quoi.
Tu m'as fait une excellente transition, parce que justement, Guillaume, on m'a dit, bon, il y a beaucoup de textes, mais il y a aussi ces personnages que tu as dessinés. Tu as dessiné tous les personnages du jeu. Et moi, pour moi, c'est une des grandes réussites du jeu, c'est que le design est extrêmement réussi, et surtout la façon dont ils se tiennent, dont ils sont habillés, ça, ils racontent une histoire, ces personnages, juste avec un dessin, entre guillemets. Comment ça s'est passé, justement, la collaboration là-dessus? Est-ce que Damien Abbas t'a envoyé des descriptions ultra précises des personnages et t'as vraiment suivi, ou est-ce qu'il t'a laissé une forme de liberté? Comment ça se passait?
Ouais, bah en fait, c'est vrai que les premiers persos, on a dû roder un peu justement cet échange de travail. Donc, au début, il était, je crois, assez descriptif dans ses premières descriptions. Vraiment, il mettait vraiment une description physique, tout un lore du personnage, même son passé et tout. Et tous les éléments qui étaient nécessaires en fait, pour caractériser ce perso-là. Donc, on a commencé à faire plusieurs designs comme ça, et au début, c'était les personnages étaient un petit peu chargés en termes d'éléments et tout. En fait, on en mettait trop, on voulait trop raconter de choses, parce que c'est vrai que la contrainte, c'était d'avoir une seule image par personnage. Donc au début, on a mis un peu de temps à trouver un peu le dosage d'informations dont moi j'avais besoin. Et en fait, après, au fur et à mesure, ça allait quand même de manière assez fluide, où des fois j'avais juste trois lignes sur un personnage et quelques photos. Souvent, on fonctionnait aussi en mood board, où lui, il m'envoyait des images soit d'acteurs, soit de costumes qu'il avait marqué. Et puis moi, je revenais, je faisais parfois 10, 15 propositions différentes pour un personnage. Et à partir de ça, on commençait à aller plus en détail. Donc c'était vraiment une grosse phase de ping-pong, en fait, où à la fois, moi, je propose des choses nouvelles en plus. Parfois, je prends vraiment ce qu'il lui me raconte. Et en fonction des personnages, des fois, ça variait. Il y en a auxquels lui, je pense, avait vraiment une vision très précise. Et du coup, il me guidait vraiment vers ça. D'autres, c'était plus flou, donc il me laissait assez libre. Et puis, il y en a aussi dont il avait une idée, mais je propose un truc différent. Et du coup, il se disait « Ah, ok, d'accord ». Et il commençait même à réécrire un peu le personnage en fonction du design. Donc, ça a un petit peu varié en fait en fonction des personnages. Il y en a qui sont vraiment créés là-dessus. Je pense que comme le personnage de Lem et Mina, donc c'était des personnages qui étaient très importants pour lui. Et je pense qu'il était très content en plus des designs. Du coup, je pense qu'il leur a donné une importance qui était encore plus importante, quoi. Donc, c'est ça qui était assez chouette. C'est moi, j'ai vraiment travaillé au fur et à mesure que lui écrivait aussi le jeu, même s'il avait déjà un plan qui était bien établi. Mais ouais, il y avait vraiment un super dialogue là-dessus, quoi.
Ça se passe comment? Parce que là, pour le coup, c'est peut-être plus lui qui pourrait répondre, mais son processus narratif, le jeu s'écrit au fur et à mesure du développement, où il avait déjà toute son intrigue écrite, et toi, tu t'es venu te greffer ensuite avec un truc qui était déjà prêt, avec quelques petites variations, comme tu viens de dire, je sais pas.
Je pourrais pas te dire à 100%, je pense quand même qu'il avait une idée quand même assez précise de ce qu'il voulait faire la base. Moi, je sais que quand je suis arrivé sur le projet, même, il s'avère que Garrett est un peu dessine aussi un petit peu. Et lui, il avait déjà commencé à faire des concept art pour la station. Donc, le projet était quand même déjà pas mal avancé quand je suis arrivé sur le projet. Je pense qu'il avait déjà quelques débuts d'heures de jeu dessus, donc je pense que voilà, c'était déjà quand même assez précis. Moi, je suis quand même arrivé pour supporter sa vision, mais j'ai pas non plus, je me suis pas impliqué dans l'écriture ou j'ai pas non plus, ma présence n'a pas fait des changements drastiques dans, je pense, ce qu'il voulait raconter, quoi. Je pense qu'il avait déjà une idée très claire.
Ouais, d'accord. Corentin, c'est vrai que je t'ai un peu grillé ta question, tu voulais la poser, mais par rapport au fait que travailler sur un jeu vidéo et travailler sur une bande dessinée comme tu le fais, la plupart du temps, est-ce que c'est si différent ou pas tant que ça? Parce que le processus est je sais pas si le processus est si différent en fait.
Ce que je me suis dit, c'est que en fait, c'est pas tant est-ce que c'est une BD ou un jeu vidéo ou un autre médium. C'est qu'en fait, c'était un format d'équipe qui était très proche de la BD. Donc, en général, en BD, il y a souvent ce duo scénario-dessin. Et là, le fait de bosser avec une seule personne qui développait le jeu, qui lui écrivait l'histoire et moi le dessin, finalement, j'ai retrouvé exactement le même process de travail. Moi, je sais que j'ai eu des expériences sur des projets de jeux vidéo de très grands studios, où là, c'est des process qui n'ont rien à voir, c'est des projets qui n'ont jamais vu le jour, hein, d'ailleurs. Où c'est des process où tu as des grosses équipes, tu as des phases de pré-prod, de développement, tu bosses avec, il y a des graphistes 3D à droite, des développeurs à gauche, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Mais c'est vrai que bosser juste avec Garrett, c'était très proche de la BD, donc ça ne m'a pas tant changé que ça, quoi.
D'accord. Alors peut-être pour revenir un peu plus sur la traduction, Eric. Je précise d'ailleurs, quand j'ai su qu'on allait se rencontrer, je suis allé voir ta fiche LinkedIn et j'étais absolument soufflé par l'expérience que tu as, parce que t'as commencé en 99, si je ne dis pas de bêtises, à traduire des jeux vidéo. Tu traduisais déjà des livres, notamment des jeux de rôle, les livres de jeux de rôle avant. Mais t'as quand même travaillé sur World of Warcraft, sur Arcanum, sur des énormes RPG et MMORPG. Donc je comprends bien, tu t'es un peu spécialisé là-dedans. Et justement, pour un jeu comme Citizen Sleeper, qui est pour le coup de la SF, tu as déjà fait de la SF, j'imagine, mais comment on fait pour adapter, c'est quoi la démarche pour adapter le texte d'origine? J'imagine que, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais tu as aussi traduit Baldur's Gate 3, c'est pas du tout la même approche. Comment on s'approprie l'univers quand on doit traduire un truc pareil?
Et oui, c'est vrai que c'est totalement différent en fonction le type d'univers. Il peut y avoir aussi le niveau de langage qui va changer ou tout ça d'un jeu à l'autre, forcément, comme quand on traduit des romans différents. Je dirais le c'est un processus qui se fait généralement dans les premiers temps, c'est-à-dire qu'on essaye de découvrir le ton, soit des textes quand on n'a que ça sous la main, soit quand on a la chance, depuis quelques temps maintenant, avec les jeux qui sont sur Steam, entre autres, on peut souvent avoir une clé, ne serait-ce que de la bêta ou ainsi de suite, qui nous permet de jouer un peu au jeu pour voir justement l'ambiance, pour se mettre dedans, quoi. Sinon, c'est plus avec les textes qu'on voit, qu'on commence, qu'on fait des essais, et puis des fois, il peut arriver que quelques jours, quelques semaines plus tard, on s'aperçoive que finalement, le ton d'un personnage ne va pas du tout coller, parce que il ne correspond pas à ce qu'on imaginait, parce qu'on n'avait pas assez d'infos, et que donc dans ces cas-là, il faut le retravailler. Mais en général, là je dirais sur Citizen Sleeper, on était dans une situation très confortable qu'on a assez rarement dans le jeu vidéo de nos jours, c'est que le jeu était déjà fini. Donc tous les textes étaient finaux, ils étaient tous dans l'ordre, c'était le confort, je veux dire. Donc en effet, on a pu commencer, on a eu des clés, on a pu commencer à jouer au jeu, à voir justement toute l'ambiance, à baigner là-dedans, et puis à décider de nos choix de traduction, puisqu'on était plusieurs dessus.
Ouais.
En fait, on devait, à la base, on était parti pour être deux traducteurs et puis une relectrice, ma chère et tendre. Et en fait, on a fini Baldur's Gate 3 avant de commencer Citizen Sleeper. Et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on avait un petit jeu entre temps, enfin un petit jeu qui va devenir plus gros, mais pour le moment c'était que le début, entre les deux. Et quand on a attaqué Citizen Sleeper, l'Ariane nous a envoyé pas mal de mises à jour pour Baldur's Gate 3, puisqu'ils ont peaufiné des textes sur les fins, les différentes fins du jeu. Donc pendant tout l'automne, ils ont continué à envoyer, à changer des choses, à rajouter des choses au jeu. Et donc nous, l'équipe a dû grossir pour Citizen Sleeper pour tenir les délais. Et donc par un un heureux hasard, on va dire, en fait, on s'est retrouvé avec l'équipe de Citizen Sleeper, qui a fini par 4 traducteurs et une relectrice. C'est l'équipe de base de Baldur's Gate 3. Voilà, c'était un peu... il fallait rajouter des gens, et donc j'ai ramené les gens de Baldur. C'était un peu le bonus, la cerise sur le gâteau, on va dire. Quand on a vu comment c'était bien, on s'est dit, bon, allez, venez vous amuser avec nous, parce que ça va vous plaire.
Je ne sais pas si tu as un chiffre en tête, mais une traduction comme celle de Citizen Sleeper, ça représente combien d'heures de travail? Moi, j'ai aucune idée, donc je ne sais pas si toi, tu peux nous dire.
Et en quantité de texte, moi, je suis curieux de savoir aussi.
Ouais, aussi. Ouais.
C'est difficile à dire, parce que Citizen Sleeper, c'est 180 000 mots. 180 000 mots, ça fait... C'est pas mal, quand même. Comment est-ce qu'on pourrait... de mémoire, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, je crois que c'est près de 600 000. Donc, c'est un des tomes du Seigneur des Anneaux.
Ouais, voilà. et juste pour avoir une échelle dans le jeu vidéo, Baldur's Gate 3 par exemple, c'est combien de mots en comparaison?
Baldur's Gate 3, c'est 2 800 000 mots, c'est 5 fois le Seigneur des Anneaux.
C'est monstrueux, ouais.
Mais on a travaillé dessus pendant 4 ans, pas non-stop. Mais entre le début, il y a eu un gros, presque une année sur l'Early Access. Oui. Et puis après, pendant un an et demi, c'était beaucoup plus calme, puisqu'ils travaillaient à rendre l'Early Access stable, à rajouter les classes une à une. Donc c'était, on avait juste des petites mises à jour. Et puis après, pendant un an et demi, en finissant sur la fin, ça a été non-stop, ouais, quasiment, quoi.
Bravo pour
le jeu. On n'est pas du tout en même ordre d'échelle, hein, mais c'est vrai que il y a tellement, le problème d'un jeu comme Baldur's Gate 3, c'est qu'il y a des tas de textes cachés. Parce que à chaque fois, dans tous les personnages, tous les embranchements qu'on ne va pas voir dans le jeu, bon, tout ça, il faut bien qu'ils existent, on va dire. Et puis même dans la moindre discussion où on va avoir 3, 4, 5 choix de dialogue qui nous emmènent vers des directions différentes dans la discussion, il faut bien se dire que l'organigramme de la discussion, lui, il est complet quand on le traduit.
Ouais, donc, l'arborescence,
on se retrouve avec des discussions qui font des milliers et des milliers de mots juste pour une interaction qu'on va avoir avec un personnage, quoi. Parce qu'il y a tous les choix possibles qui viennent se rajouter.
Est-ce que, alors, c'est vrai qu'on n'était pas là pour parler de Baldur's Gate, mais c'est quand même pas intéressant. Est-ce que, en termes de scope, c'est Baldur's Gate 3, c'est le plus gros projet sur lequel tu as travaillé dans le jeu vidéo, ou il y a eu des trucs encore plus gros?
En un seul coup, je dirais oui. Parce qu'il m'est arrivé de travailler sur des jeux où on faisait d'abord le jeu de base et après des mises à jour pendant des années, des extensions, des choses comme ça. Et si tu cumules tout, tu vas arriver à plus. Mais sur un jeu de base, oui, c'est ce que j'ai fait de plus gros.
Ouais, bah oui, c'est clair. Enfin, ça se ressent. Et bravo pour le boulot, hein, parce que la trad est formidable. Et d'ailleurs, Corentin, toi, tu voulais peut-être parler d'une anecdote.
Mais je voulais pas. Je suis désolé, Guillaume, tant qu'on est sur le CV de Eric, je voulais hijacker ce podcast-là, mais je tenais à en parler. Ça va te laisser un peu sur la touche, mais 10 minutes. Peut-être même que t'es lié à cette histoire aussi. Ça serait incroyable. Mais j'y crois. Je pense pas. Je voulais parler quand JK m'a montré le CV d'Eric, j'ai vu qu'il avait bossé sur Morrowind. Moi, chez moi, ça a un peu fait tilt dans ma mémoire. Je me suis dit, tiens, mais moi qui ai joué à Morrowind pas mal à l'époque, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille quand j'étais mis dans la boucle de mail pour organiser le podcast et que j'ai vu ton, je sais pas si c'est ton pseudo, mais en tout cas ton adresse mail, Eric, je me suis dit, mais je connais ce pseudo là et en fait je connais cet homme là j'ai déjà échangé avec cet homme là du coup j'ai refouillé dans mes mails et tout ça, et je suis retombé dans une vieille conversation qu'on avait eue en 2004, et je suis sûr que tu t'en rappelles absolument pas, mais on avait échangé en 2004. Moi, j'étais sur les forums de la communauté WeWeLand, ça parlera, WeWeLand représente si vous êtes là, de Morrowind, et j'étais venu vers toi parce que il y avait un débat qui agitait la communauté, qui était de savoir, d'essayer de comprendre comment avait été traduite. Attention, là c'est vraiment très nerd. Vous pouvez partir, hein, JK et Guillaume, si vous voulez. Même les auditeurs, vous pouvez partir si vous voulez. Pour savoir comment tu avais fait pour traduire les sermons de Vivek, et notamment, tu es dans les sermons, enfin, je te rappelle probablement pas de ça, mais dans les sermons de Vivek, qui sont des textes religieux dans Morrowind, en fait, il y a un texte caché, il y a un sermon caché, il y a une confession cachée de ce fameux Vivek, qui est une sorte de demi-dieu dans la mythologie de Morrowind. Enfin bref. Et du coup, on avait échangé à l'époque à l'époque là-dessus. Tu m'avais donné la clé. J'ai retrouvé le mec. Tu m'as donné la clé. Tu m'as dit ouais, si j'ai bien traduit ce truc-là. Si tu prends le 8e mot du 4e sermon, tu vas réussir à décoder le texte. Et donc, du coup, je m'étais dit, mais comment t'avais fait? Enfin, aujourd'hui, et je suis content de pouvoir te poser la question. Comment tu fais? C'est valable pour Morrowind, mais c'est pas valable pour d'autres jeux. Comment tu fais pour bosser sur avec les auteurs originaux quand il y a des intentions cachées comme ça dans un texte, quand il y a un code, quoi, dans un texte, et que tu dois décrypter ce code-là? Est-ce qu'ils font bien leur boulot et ils te laissent des instructions? Ou alors il y a tout, j'imagine qu'il y en a aussi qui font moins bien leur boulot.
Il y a, Là, il n'y a pas de mystère. Si les développeurs ne nous donnent pas le code, on est mort, quoi. Donc, pour le cas de Morrowind, bah, il m'avait indiqué, je ne me souviens plus, hein, très honnêtement. Et donc, Bethesda avait dû nous dire, attention, sur cette chose-là, voilà comment on a procédé. Et donc, on a essayé de faire pareil, quoi. Donc, j'avais beaucoup, je ne me souviens pas de cet échange, hein, je vais être honnête avec toi.
Non, mais moi, c'est ce pseudo, mais enfin bon, vas-y, je te laisse terminer.
vas-y, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup échangé avec la communauté française de Morrowind sur les forums, en fait, parce que quand j'ai traduit le jeu, en fait, on était deux sur la traduction au début, et très vite, je me suis retrouvé tout seul. Et donc, le jeu donc, était sorti en anglais, pareil, avant. Et c'était très compliqué d'avoir des réponses justement au niveau de Bethesda, de gens qui étaient capables de répondre à mes interrogations sur le texte. Et donc au final, j'avais fini par demander au chef de projet si je pouvais justement aller sur les forums pour leur demander aux joueurs français qui avaient joué au jeu anglais. Et donc c'est comme ça que les interactions avaient commencé. Donc c'était très sympa d'ailleurs comme façon de procéder. Je crois que c'est le seul jeu sur lequel on a procédé comme ça, quoi. À l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'on l'autoriserait, mais bon, ceci dit, c'est sans doute parce que Bethesda, il devait être sous l'eau à cause d'un autre projet ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que les réponses n'arrivaient pas et on s'en sortait pas. Quand on voyait la date de sortie qui arrivait, on se dit à un moment, il faut qu'on sache de quoi on parle, sinon on va dans le mur, quoi.
Oui, et puis c'est il y a 22 ans, j'imagine que l'industrie ne marchait peut-être pas.
C'était un peu. C'était il y a plus de 20 ans, donc c'était quand même très compliqué au niveau de la localisation. On était c'était pas tout à fait le Far West, mais c'était quand même beaucoup de tâtonnements. C'est-à-dire que par exemple, moi je me souviens que le désolé, hein, les autres n'hésitez pas à nous dire.
Hein, surtout que j'ai une deuxième question après, donc.
Pour te donner une idée, le fichier de dialogue, c'était un fichier Excel de plus de 700 000 mots, un seul fichier. Et dedans, il y avait pas mal de... Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait beaucoup de liens hypertextes qui renvoyaient sur des termes qui étaient l'espèce d'encyclopédie. En fait, tu cliquais dessus, c'est sur les races, les choses comme ça, ça te donnait un petit texte dessus. Et en fait, ces liens hypertextes dans le fichier dialogue n'étaient absolument pas identifiés. Donc, ce qu'il avait fallu commencer par faire, c'était traduire les liens eux-mêmes en fonction de ce à quoi ils se référençaient, puis envoyer des chercher remplacer géants dans le fichier de 700 000 mots, et après faire tourner la traduction autour. Donc c'était un bazar sans nom. Par exemple, on n'avait pas le droit, il n'y avait pas de tag de genre à l'époque, donc le personnage pouvait être ou masculin ou féminin, donc il fallait qu'on évite tous les accords de genre. Sur plus d'un million de mots, c'est costaud. Et il y avait entre autres deux tags qui étaient pour cette fameuse encyclopédie, il y avait « foreigner » et stranger, et sans utilisation de masculin ou féminin, et ça s'était terminé par, pour l'un d'entre eux, j'avais dû utiliser étranger au pluriel, et donc mes phrases c'était des constructions un peu bancales, genre vous autres les étrangers, et le deuxième devait être pas d'ici, en mode vous qui n'êtes pas d'ici, on se retrouve sur du bricolage comme ça des fois. Maintenant en général sur les gros jeux, on peut gérer les genres, c'est beaucoup plus confortable. Et surtout, ça fait une traduction qui est bien meilleure à l'arrivée, quoi. On évite les formulations trop lourdes ou totalement.
Comme tu parles du fait que tu avais le droit d'aller sur les forums, ça me fait penser à ma deuxième et dernière anecdote passionnante à ce sujet, en tout cas, qui me passionne moi. C'est que... Moi, je me rappelle quand Morrowind est sorti, justement, moi, j'étais déjà un fan de la série d'avant. J'avais joué à Daggerfall, mais qui n'avait pas eu de traduction. Ou Redguard, qui avait une traduction, mais un peu partielle, avec le jeu en français, mais les noms propres qui étaient restés en anglais. Et je me rappelle que quand c'est sorti, moi, j'avais été outré par une décision des traducteurs, donc par toi qui était que les noms propres avaient été traduits. Et je me rappelle que, notamment Skyrim, qui a été traduit en Bord de Ciel, et l'enclume, Hammerfell en l'enclume, etc. Et moi, j'avais été outré par ça. Et c'est marrant parce qu'en préparant ce podcast, j'avais réfléchi pourquoi j'avais été outré par ça. Et en vrai, je pense que c'est parce que j'avais été... Je me sentais un peu dépossédé, si tu veux, des noms, de ces noms-là que moi, pendant des années, j'avais connus. Tout d'un coup, les gens sur les forums commençaient à parler de Bord de Ciel, de L'Enclume. Je disais, mais non, mais c'est pas ça, Bord de Ciel et L'Enclume. Moi, ça fait des années que je vis, des années, ça faisait 3 ans ou 4 ans, mais que je vivais avec ces autres noms. Et j'avais eu des mots, je me rappelle, sur le forum qui étaient un peu durs. Je m'étais dit, non, mais Bord de Ciel, c'est nul comme nom, etc. Et il y avait un des traducteurs, en fait, que vous étiez deux à l'époque, donc c'était peut-être pas toi, qui était arrivé dans les commentaires
et qui avait défendu.
Un des deux traducteurs, du coup, qui avait été arrivé dans les commentaires du forum et qui avait défendu son choix. Et je me rappelle avoir été mortifié d'avoir insulté quelqu'un en ligne et qui était arrivé pour défendre son truc. Et ce jour-là, j'avais 18 ans, je me rappelle avoir pris la décision solennelle de plus jamais insulter des gens en ligne. Et depuis, je suis
ah bah voilà.
Je suis quelqu'un de très gentil en ligne.
C'est un peu grâce à Eric.
Si quelqu'un était venu défendre le choix, ça devait être moi, j'imagine. Hein, parce qu'à priori,
mais c'est pour ça que ton pseudo n'est pas inconnu.
Non, il n'y a aucun souci. Hein. En fait, si tu veux, on n'avait pas non plus d'idées sur ce que serait le développement futur de la série des Elder Scrolls ou ainsi de suite et tout ça. Ouais. Donc c'est vrai que la logique avait été de dire tous les noms qui font trop anglais dans leur prononciation, il faut leur trouver un équivalent français. Alors évidemment, Cyrodiil, on va pas traduire, Elsewhere et ainsi de suite, on va les garder. Mais on se disait, Morrowind, on l'a gardé parce que c'était le titre du jeu. On savait pas évidemment que Skyrim sortirait plus tard et tout ça. Mais donc oui, la logique était de dire Skyrim, Bord de Ciel et tout ça quoi. Et Hammerfall a été un gros problème. Ça a été des heures et des heures de réflexion. Et au final, on est tombé sur L'Enclume qui ne nous satisfaisait pas pleinement. Hein, je vais pas te mentir. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été modifié par la suite. Il doit être plus sur Martelfell, un truc comme ça dans Tesso. Oui.
Exact.
Où en fait, c'est vrai que L'Enclume n'était pas très heureux, mais c'était la seule solution qu'on avait fini par trouver par rapport au lore, par rapport à la création du pays, tout simplement.
Mais quand on bosse sur un jeu comme ça, soit les Elder Scrolls sont déjà des épisodes précédents, soit même Citizen Sleeper qui était déjà dit. Je raccroche l'interview, vous avez vu, habilement.
Oui, vas-y.
Citizen Sleeper. ou Citizen Sleeper qui avait pas d'épisode précédent, mais qui était déjà sorti en anglais 2 ans avant. Comment est-ce qu'on travaille avec. Est-ce qu'on on veille à respecter, aménager les susceptibilités ou les termes avec lesquels s'est construit la communauté, avec l'image qui s'est faite du jeu avant qu'on s'attelle du coup à sa localisation? Ou est-ce qu'on se dit moi j'ai un boulot à faire, j'ai un travail aussi de création à faire et je vais le faire sans les œillères qui vont m'imposer. Donc les seules personnes à qui vous avez des comptes à rendre, c'est le créateur, c'est pas les fans entre guillemets quoi.
Je dirais que c'est plus au cas par cas qu'autre chose. C'est-à-dire que dans Citizen Sleeper, le problème des noms, puisque tu me parlais des noms, ne s'est pas vraiment posé. Citizen Sleeper, on est dans un univers futuriste. Il n'y a pas de nom à consonance anglaise constitué comme en Heroic Fantasy ou des noms qui veulent dire des choses spécifiques. Donc là, la question des noms s'est pas posée. On les a conservés. Voilà. Après, je dirais que c'est vraiment au coup par coup. Tu parlais tout à l'heure de Baldur's Gate. Tu vois, par exemple, Baldur's Gate. On a conservé tous les noms sauf parce qu'il y a de mémoire il y a Shadowheart qu'il a fallu traduire parce que même si Ombre Cœur ne nous satisfaisait pas pleinement, il fallait vraiment garder le concept de l'ombre et du cœur dans son nom, donc toutes les langues ont eu un peu le même problème. Et puis il y a Gale où on a décidé de lui rajouter un Y pour pas que son nom reste en Gale en français et qu'il ait pas un nom de maladie le pauvre. Mais je dirais oui, c'est vraiment au coup par coup.
Ouais. Et alors peut-être pour revenir sur l'aspect création des personnages artistiques, moi j'avais une question à Guillaume parce que Guillaume on l'a dit, tu es auteur de bande dessinée à côté. Et notamment, tu as sorti ta dernière bande dessinée en date, je crois, c'est Frontières, qui est sortie en 2023, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est une bande dessinée que moi, du coup, après avoir fait Citizen Sleeper, j'ai acheté, que j'ai lu et que j'ai adoré. Je tiens à te le dire, j'ai trouvé ça formidable.
C'est gentil.
Vraiment, Frontières, c'est trop bien. Mais justement, alors, si je me trompe pas, tu as travaillé plus ou moins en parallèle sur les deux projets. Est-ce qu'à un moment donné, l'un a nourri l'autre? Parce que ce qui est intéressant dans Frontières, c'est il y a un truc qu'on retrouve dans les deux, qui est en commun avec Citizen Sleeper, c'est que ce sont des œuvres qui sont basées sur des personnages et qui sont hyper attachants. Et on retrouve ça dans les deux jeux. Par contre, ce sont des styles visuels qui sont très différents. Donc, est-ce que l'un nourrit l'autre ou finalement, ça a été deux projets que tu as menés vraiment en parallèle?
Non, non, ils se sont clairement nourris parce que les deux ont quasiment démarré au même moment. Après moi, Frontier, je l'avais en tête depuis avant, mais quand je me suis vraiment mis sur le projet, je démarrais quasiment Citizen Sleeper. Et en plus, moi, ce que je faisais, c'est que j'avançais ma BD au quotidien et en fait, Garrett m'envoyait des personnages de Citizen Sleeper tous les mois. En fait, il m'envoyait un ou deux persos. En fait, au fur et à mesure que lui avançait l'écriture du jeu, en fait, il m'envoyait des nouveaux persos. Donc, en fait, j'alternais comme ça mes semaines, le jeu et la BD. Donc, forcément, c'était vraiment très proche en fait en termes de process de travail. Et oui, c'est vrai que c'est deux univers de SF. Et je pense que c'est pour ça qu'on bosse bien ensemble avec Garrett, c'est que on a le même attachement sur les personnages, on a les mêmes références plus ou moins en science-fiction. Donc, forcément, il y a des choses qui se sont télescopées. Je pense que moi, j'ai sûrement ajusté mon écriture de Frontier inconsciemment parce que j'avais découvert des histoires dans Citizen Sleeper, voir comment lui il abordait les questions sociales, trucs comme ça. Et puis, bah, pareil, en termes de dessin pur, peut-être plus, effectivement, le style de dessin est très différent entre les deux, mais il y a quand même des liens, tu vois, sur des gimmicks de costumes, comment sont faites les fermetures éclairs, les types de couleurs des combinaisons, les équipements de spatiaux et tout. C'est presque Frontière, pour ceux qui ne connaissent pas, les personnages font un style SD, donc petit, un peu plus mignon, plus simplifié sur le visage, et très, avec des petits corps. Mais je pourrais quasiment... J'avais d'ailleurs fait quelques dessins pour la sortie de Citizen Sleeper, où j'avais repris quelques personnages de Citizen Sleeper en version Frontière, donc avec un petit corps, grosse tête. Et en fait, ça marchait très bien. Donc ouais, ça aurait pu à la fois faire deux œuvres identiques, mais en fait non, elles sont très proches, en même temps assez différentes, donc c'était plutôt agréable à faire.
Voilà, parce que justement ma question c'était, est-ce que c'est pas des fois un peu schizo, entre guillemets, de surtout avec des styles graphiques quand même assez différents, d'arriver à séparer les deux malgré tout? T'as pas eu des moments de doute un peu par moment, disons ouais, je mélange trop les choses?
Je pense que j'ai réussi à en tirer, on va dire, le bon de cette situation qui est un peu schizophrène. Après, moi, je bosse souvent, je fais souvent du freelance à côté de ma BD, donc et j'aime bien en plus changer de style graphique, c'est un truc qui me plaît énormément. Et là, ce qui était bien, c'est que je changeais beaucoup de style graphique et en même temps, je restais un petit peu dans le domaine de la science-fiction, donc je faisais des transitions comme ça de semaine en semaine qui étaient assez douces. Et c'est vrai que la différence, vraiment, et là, c'est vraiment un truc très personnel, c'est que Frontier, c'était mon projet perso, c'était mon bébé, donc les persos, je les voyais d'une façon différente, mon implication personnelle était aussi différente, là où pour le jeu, bah là, je suis vraiment au service de Garrett. C'est pour ça que moi, comme je disais avant, je me suis pas imposé par rapport à son histoire, par rapport à ses personnages, je me suis dit vraiment mon but, c'est de rendre sa vision visuelle et de faire plaisir aux développeurs, en fait. Donc je me mets plus en retrait personnellement. Là où sur la BD, c'est mon ego à 2000% parce que c'est moi tout seul sur mon projet, donc finalement alterner les deux, c'est pas plus mal, quoi.
Ouais, ça aide aussi, quoi. Et c'est marrant parce qu'en lisant Frontières, bon, on sent évidemment qu'on a un amour immense pour la science-fiction. Ça fait un moment c'est un domaine que tu apprécies particulièrement, évidemment. Mais on sent aussi, à travers ça, que t'es un gros fan de jeux vidéo d'une manière générale. Est-ce que tu peux me citer des jeux comme ça qui t'ont peut-être influencé dans ta carrière d'artiste ou même qui t'ont fait grandir, enfin qui t'ont accompagné comme ça? Est-ce que tu as des références en jeux vidéo comme ça?
C'est toujours dur à faire un peu le listing, mais moi j'ai commencé, j'étais beaucoup joueur PC, donc effectivement il y a eu les Baldur's Gate, les Age of Empires à l'époque, et puis à un moment j'ai commencé à, comme j'avais pas le droit à avoir de console chez moi, j'ai commencé à faire l'émulation. Et là, j'ai découvert un peu tous les JRPG Super NES et puis ensuite PS1. Et c'est vrai que tu vois, ce style graphique, en fait, moi, m'a toujours parlé, ce côté Super SD qu'on avait dans le JRPG japonais, m'a énormément influencé, quoi. Donc, cette représentation était très, très forte. Et finalement, même après ces jeux-là, tu vois, j'ai joué à des jeux comme les Phoenix Wright. Donc, je me suis commencé à me mettre aussi dans le visual novel. Et ça rejoint finalement Citizen Sleeper. Donc, j'avais... quand j'ai abordé le projet, j'avais déjà un peu ce lexique visuel de me dire, ok, comment eux, dans leur jeu de Capcom, comment ils faisaient pour rendre un personnage impactant et iconique en une seule image. Et j'avais déjà un peu cette culture du visual novel. Donc ouais, c'est en général, c'est tous les jeux auxquels on joue quand on est ado qui vont vraiment marquer au fer rouge le reste, quoi. Mais puis après, voilà, plus récemment, et notamment par rapport aux jeux, c'est des jeux comme Hades, qui est très reconnu pour les portraits des différents dieux. Ça nous a été une grosse référence. des jeux comme Persona 5 qui jouent beaucoup aussi sur la DA, sur les menus, sur le côté visuel de du HUD et tout. Donc ça c'était des trucs qui m'ont aussi beaucoup marqué, quoi.
Ouais. Et toi, Eric, peut-être, justement, c'est quoi ton rapport aux jeux vidéo et aussi à un jeu vidéo que tu as traduit? Je veux dire, quand tu as passé 4 ans à traduire Baldur's Gate, est-ce que tu as encore envie de jouer à Baldur's Gate? Est-ce que, voilà, c'est...
Oui, quelque part. Après, c'est un problème de temps. Oui. Parce que c'est extrêmement chronophage, que ce soit au niveau du travail, mais au niveau pour ce qui est d'y jouer aussi. Donc, oui, bien sûr. À la base, j'ai découvert le jeu vidéo par le plus grand des hasards. Très, très honnêtement, quand on m'a demandé de travailler sur Planescape Torment en 99, c'était vraiment, je dirais, je jouais un petit peu aux jeux vidéo dans les années 90, mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir si c'était viable en tant que débouché professionnel pour un traducteur. Pourtant, j'avais joué à des Eye of the Beholder, des choses comme ça, où il y avait du texte dedans déjà, mais j'avoue que bon, je traduisais des romans, j'étais pas... Et puis, quand j'ai découvert ça, finalement, je me suis dit que je trouvais... Enfin, voilà, ça m'a plu... La traduction de jeux vidéo m'a davantage plu que les romans, en fait. Le fait de changer plus souvent d'univers, je pense, de travailler des fois en équipe aussi, d'être en contact avec des gens, même si c'était juste par l'intermédiaire de Skype ou du téléphone, mais voilà. Et donc, comme je te dis, je suis arrivé dedans alors que j'étais pas un joueur invétéré. Mmh. Et puis bah, après, par la suite, c'est en fonction déjà du temps et puis des jeux qu'on me proposait, des choses comme ça, et puis que je me suis un peu intéressé à divers, que je me suis plongé dans divers jeux, ainsi de suite. Après, maintenant, là, si tu me dis maintenant, est-ce que j'aurai le temps de jouer, de refaire un run complet de Baldur's Gate 3, c'est compliqué quand même, il faut trouver un peu de...
Il faut trouver quelques heures,
on va dire. C'est plus facile de jouer à Citizen Sleeper, même si quand même il faut un peu de temps pour arriver au bout. Hein.
Oui, mais alors je peux témoigner que Citizen Sleeper sur Steam Deck, ça se fait parfaitement avec un bébé de 6 mois, alors que Baldur's Gate, ouais, j'ai toujours pas trouvé le temps. Hein. Je tiens.
Oui, c'est vrai que c'est un peu moins chronophage quand même, ouais. Citizen Sleeper, disons que en 15 heures environ, tu peux boucler le jeu et les DLC, quoi.
C'est ça.
Ah, il y a plusieurs fins, donc t'as pas envie de recommencer, quoi.
Ça dépend où tu vas. Tu peux t'arrêter avant, entre guillemets, en prenant une fin qui te convient tout à fait, ou tu peux relancer après, repartir dans la station pour faire d'autres choses. Mais je dirais l'intérêt d'avoir un jeu narratif plus contenu, entre guillemets, même si 180 000 mots, ça reste quand même assez important, et le fait qu'il ait été totalement écrit avant, pour nous, c'était quand même, comme je parlais tout à l'heure d'un confort, d'un vrai confort au niveau du travail, et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que ça nous a permis, c'est un jeu qui repose sur les relations humaines, clairement, et ça nous a permis de les faire évoluer, ces relations, c'est-à-dire que il y a des personnages avec qui le joueur va entamer une relation par un vouvoiement, par exemple, et qui va pouvoir basculer par un tutoiement au bout d'un moment où les personnages se fréquentent depuis suffisamment longtemps. C'est ce genre de subtilité qu'on ne peut absolument pas faire, par exemple, sur un mastodonte comme Baldur's Gate, où les embranchements sont tels qu'on est obligé de garder quand les personnages se vouvoient, ils sont obligés de se vouvoyer du début à la fin. Parce qu'après, comme on peut rencontrer le personnage à divers endroits de la narration, on va avoir un dialogue qui peut se dérouler à divers endroits du jeu. Donc si c'est un moment où nous, on a décidé de faire tutoyer et que ce dialogue-là peut se rebrancher au début du jeu où les personnages se vouvoient, on se retrouve avec des incohérences de partout, quoi. Là, le fait d'avoir un jeu suffisamment contenu et d'avoir toute la trame d'emblée fait qu'on peut, faire progresser la relation dans le langage aussi. C'était très appréciable.
Alors je ne sais pas si toi, Corentin, tu avais d'autres questions, mais moi je voulais un petit peu parler de l'après Citizen Sleeper, éventuellement Citizen Sleeper 2, même si j'imagine que vous ne pouvez pas me dire tout, mais à moins que Corentin, tu aies quelque chose d'autre à poser sur Eric ou Guillaume.
Non, vas-y, Jika, je t'en prie, je te laisse la main.
Alors, ce qui est marrant, c'est que Citizen Sleeper 2 a été annoncé limite juste après la sortie de Citizen Sleeper 1, enfin, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, a été annoncé très rapidement. J'ai l'impression quand même que Guillaume, tu travailles dessus. quand on a vu le trailer qui a été révélé il y a pas longtemps, on reconnaît bien sûr ton style. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur sans vouloir en dévoiler trop et sans vouloir éventuellement dévoiler le projet du créateur, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette suite?
Il s'inscrit comme une suite relativement directe. Alors okay. Là pour le coup, moi je sais même pas si vraiment on reprend le même sleeper, le même dormeur dans le nouveau jeu, mais en tout cas c'est vraiment la suite des événements. On reste dans le même univers. Je sais que en fait quand lui écrivait le premier jeu, il avait déjà en tête le 2, et en fait c'est effectivement quand le jeu est sorti quelques semaines après, il m'a dit je mets le 2 en chantier. Moi j'étais même pas au courant à ce moment-là. Donc en fait il l'avait vraiment en tête tout de suite quoi. Et de ce qu'on peut en dire, ce qui est un petit peu dévoilé dans le trailer, hein, c'est que globalement, on reste quand même sur des mécaniques qui sont assez proches. Le cœur du jeu, c'est effectivement, c'est toujours cette histoire qui est narrée par plein de personnages qu'on va rencontrer. On change un peu le côté jouable graphique, il va y avoir un peu plus de voyage dans ce deuxième épisode. Et en fait, moi, pour moi, ce qui est super agréable, c'est que du coup, je pense qu'on va recréer une panoplie de personnages. Ouais. Il y aura peut-être quelques personnages qui vont revenir, donc ça va être cool de les faire évoluer. Et c'est aussi un contexte où on est plus dans l'œil, enfin dans la station d'origine. Donc il y a presque une sorte de, c'est presque l'idée de créer une nouvelle culture en fait de gens qui vivent dans l'espace, avec des types de costumes différents, des types d'acting différents, de visages. Donc c'est vraiment dans la continuité, tout en apportant pas mal de petites choses subtiles en termes de narration et d'univers quoi.
Du coup, il y a un scope qui est quand même plus large que le premier, tu sens
J'ai l'impression que le scope plus large va plus encore être du côté de Garrett, parce qu'en termes de mécanique de jeu, il y a des nouvelles choses, pour le coup.
Ouais.
Il est un peu plus riche. Moi, pour le moment, je ne sais pas encore. Moi, je sais qu'au début du jeu, je lui avais demandé, genre, est-ce qu'on reste à peu près sur la 20-30aine de personnages. Il m'avait dit oui à l'époque, donc moi, je reste là-dessus. Okay. Je pense que ça, c'est peut-être un truc, en termes d'écriture, qui peut peut-être pas augmenter. Ça fait que le jeu, c'est toujours, on est toujours que trois dessus, hein, finalement. Il y a toujours Garrett, moi et Amos. Et donc, le studio n'a pas grandi. L'écriture reste toujours à une seule personne. Donc, je pense que le scope va quand même être assez proche. Je le vois pas faire un truc. Et c'est vrai que, moi, le truc assez agréable que j'avais eu avec lui, c'était que, pour avoir bossé avec d'autres équipes indé, c'est que quand il m'a dit, viens bosser sur le projet, sur le premier Citizen Sleeper, il m'a dit, moi, je vais le sortir en avril, c'était 2022. Et il s'est tenu au mois après. En fait, il a vraiment fait son planning très précisément. Ah ouais. Et il sait qu'il va le sortir pour l'année prochaine, le prochain. Donc, il ne se laisse pas, en fait, submerger par des idées, par des développements qui pourraient durer X années. En fait, il a son idée.
Et il a itératant, ouais.
Ouais,
C'est extrêmement important, surtout quand on est une petite équipe, de savoir se mettre des barrières, se savoir quand s'arrêter, parce qu'il y a tellement de développeurs indés, des développeurs tout court qui se sont cramés avec un projet interminable. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est important.
C'est vrai que le choix des portraits quasiment uniques, il y a juste 2-3 persos qui ont une petite variante dans le jeu. On s'était posé la question, on se dit, est-ce qu'on fait plusieurs dessins par personnage? Est-ce qu'on leur fait des légères animations? Il y a des fois souvent ça, il y a un peu ça dans Hades avec les yeux qui clignent, des petits mouvements de respiration. Et déjà, moi je dis, moi je sais pas faire ce truc d'animation. Mon temps, il était aussi comprimé par la BD. Donc je lui ai dit, on part sur ce truc d'image fixe. Il m'a dit, ok, c'est très bien. On se rajoute pas du boulot tant que c'est pas ultra ultra nécessaire quoi.
Et est-ce que tu as d'autres projets dans le jeu vidéo actuel dont tu peux nous parler?
En ce moment non, là je me focus vraiment sur le deuxième épisode de Citizen Sleeper. Honnêtement, je pense que mis à part refaire des key art, des trucs comme ça qui me prennent peu de temps, je me vois mal repartir à bosser avec une équipe, un studio. Okay. C'est vrai que là, j'ai un peu trouvé le compromis parfait avec Citizen Sleeper. Finalement, c'est assez rare que, en tant que dessinateur pour un jeu, nos dessins se retrouvent tels quels dans le jeu, en fait. Tu vois, mis à part, effectivement, Hades, trucs comme ça. Mais aujourd'hui, moi, je ne me verrais pas du tout bosser pour un jeu qui finira en 3D parce que mes concept art resteraient un peu secrets. Non pas que j'ai pas envie de voir mes personnages en 3D à la fin, mais il y a un petit côté d'ego de se dire, j'ai envie que mon travail se voit concrètement dans le jeu. Et finalement, il n'y a pas tant que ça des jeux qui, même si maintenant il y a une mouvance qui revient avec vraiment du dessin d'illustrateur dans les jeux, et ça, je trouve ça très cool, quoi.
Ouais, j'imagine, c'est clair. Et Eric, est-ce qu'on peut espérer une VF de Citizen Sleeper 2 au moment de la sortie ou pas?
Alors, j'ai zéro info sur la question. J'imagine que ce qui va le déterminer, ce sont les ventes ou pas du premier, hein, en français.
Oui, bien sûr.
Je sais pas. Moi, j'espère franchement qu'il sera traduit. Qui sera traduit de préférence pour sortir en sortie simultanée, ce serait super, mais j'ai pas d'infos.
D'accord, on verra.
Si, si, nous, c'est sûr, si, si, on, si on nous le propose, on sautera sur l'occasion, c'est clair. Hein. On va pas refuser. Hein. Mais
Toi, pareil, Guillaume, tu vous avez pas du tout parlé de ça encore.
Non, j'ai vraiment aucune idée. D'ailleurs, même la traduction française, moi, je l'ai appris relativement tard. Et puis quand il m'a dit, ouais, tout, c'est la team de Baldur's Gate, en plus, ouais. C'est pas mal. Non, c'est... Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à refaire le jeu en français. Je me suis vraiment refait un run complet là, en 2-3 jours. Et c'est vrai que c'est vu que c'est un... Il y a à la fois le style dans les dialogues, et puis aussi il y a tout ce côté un peu, bah, je sais pas comment on dit ça, mais... Il y a une sorte de voix off, en tout cas, il y a vraiment une écriture de roman où c'est pas juste des dialogues, où il y a vraiment ça décrit des sensations qu'ont les personnages, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est super agréable de lire ça. Effectivement, ce que tu disais, Corentin, le Steam Deck, j'imagine, c'est vraiment ce côté petit roman. Moi, je me posais avec ma Switch dans le lit, et puis comme lire 2-3 pages de roman avant de se coucher, bah, c'était parfait, quoi. Donc, c'est vraiment, ça change vraiment l'approche du jeu, quoi. Et puis surtout que c'est vrai que, mec, un bon niveau d'anglais, c'est quand même assez fatigant, donc la version française aide vachement, quoi.
Ah, bah, c'est clair, c'est clair. Corentin, tu avais peut-être une dernière question ou
Pas du tout.
Des
fois j'ai des bouts de questions, mais je me suis dit, oh, mais en fait c'est bien quand j'ai pas de demi-questions. Si j'avais vraiment une question entière, tu vois, genre par exemple interroger Guillaume sur un truc qu'il a fait il y a 20 ans comme j'ai interrogé Eric, là je le ferais. Ouais, mais non, je trouve ça, je vous écoutais, je trouve ça très intéressant. Nous avons parlé avec Hades, moi, c'est pas une question, mais c'est vrai que c'est
j'ai fait ce parallèle, mais oui, maintenant que tu le dis, ouais,
que je trouve hyper intéressant au niveau de la caractérisation. C'est pareil, c'est un jeu qui, j'ai l'impression, Hades, qui a cartonné, et j'ai l'impression qu'une bonne partie de son carton, et certes, ça vient de son gameplay hyper solide et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, les gens ont accroché, en fait, complètement à l'univers, aux personnages, et ils sont, les personnages sont hyper présents, ils sont même présents de manière presque absurde pour un roguelite, en fait, parce que c'est un peu... Ils sont hyper forts, les personnages, quoi. Et en fait, t'as dans Citizen Sleeper, qui pourrait être un jeu un peu austère, un peu comme le jeu précédent, Another Waters, qui est graphiquement qui a une proposition très forte aussi, mais qui est un jeu qui a une certaine austérité, un certain radicalisme. Ça aurait pu être un jeu très radical, en fait, mais il est aimable, Citizen Sleeper, parce que ces personnages-là, tu les connais, et c'est vrai que j'avais pas réalisé que tu les connais avec un portrait à chaque fois, en plus. C'est ça que je trouve, que vous avez réussi à y mettre des choses dans... Pardon.
Je pense que le rapport au jeu, il peut durer avec la communauté sur ce côté. On s'attache aux personnages, finalement, que ce soit dans leur écriture, dans leur visuel. Moi, je sais qu'après la sortie d'Hades, pour traîner sur des réseaux sociaux essentiellement composés d'artistes, je voyais 10 000 fanarts de gens qui redessinaient les personnages d'Hades, et on a eu un petit peu sur Citizen Sleeper. On s'est dit, ok, ça a marché, c'est toujours un peu iconique, et on voit pourquoi des studios comme tu vois, Blizzard avec Overwatch mettent vachement d'emphase sur ces personnages, sur ces designs, pour les mettre en avant, parce que c'est à la fois le jeu c'est souvent du gameplay, mais les gens vont parler, vont grandir, et Baldur's Gate, c'est pareil. Je veux dire, moi, le nombre de fanfic, de fanart que j'ai vu de Shadower, de toute la team, machin et tout, tu vois, c'est les gens revivent l'histoire à travers les personnages, et c'est ça, en fait, qui rend le viral, et c'est ça qui donne aussi envie de jouer au jeu. Moi, je sais que Baldur's Gate, j'ai acheté sur un PS5, donc c'était quand même après la sortie, mais j'avais déjà toutes les interactions des personnages, j'avais déjà des sortes de trucs, je voulais savoir qui étaient ces personnages là en fait, c'est ça qui me donnait envie de jouer au jeu, quoi.
Ouais, c'est ce qui est vraiment très fort avec, c'est ce qu'ils ont en commun, Baldur's Gate et Citizen Sleeper, c'est des jeux, tu te rappelles. Alors, au final, ce que tu retiens, c'est les personnages. Et tu vois, Citizen Sleeper, je me rappelle, vers la fin du jeu, à un moment donné, tu retrouves, il y a un des personnages que j'ai retrouvé, que j'avais pas vu depuis des heures, et j'étais tellement content de le revoir.
Toujours les jeux dont on parle, hein, il va donner la fin, là.
C'est pas grand chose. J'étais tellement content de revoir ce personnage, et vraiment.
C'est mort depuis le début. Pardon.
C'est ce que j'ai retenu. Arrête, ça suffit. C'est ce que j'ai retenu à la fin, c'est-à-dire quelle belle histoire, et surtout quelle bande de personnages j'ai réussi à me faire. Enfin, j'avais l'impression de m'être fait des amis, en fait, à la fin du jeu, et c'est hyper fort d'avoir réussi à faire ça, quoi. Donc, encore bravo. Et non, peut-être, Eric, aussi, si tu peux nous partager éventuellement, est-ce que tu as d'autres projets de jeux vidéo là en cours, sur des jeux qui vont sortir? Est-ce que, par exemple, Elder Scrolls 6, est-ce que tu es sur la trad?
Combien de signes à traduire encore dans Elder Scrolls 6? T'en es où à peu près?
Le souci, je peux absolument rien dire pour cause de NDA dans tous les, dans tous les sens. Donc, on travaille sur d'autres jeux à l'heure actuelle. Je peux pas les citer, hélas. Elder Scrolls 6, j'avoue que c'est un truc que je verrais bien à terme, tu vois, mais j'ai pas de... Les contacts qu'on a avec Bethesda à l'heure actuelle sont vraiment de distants, de loin en loin. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, j'avais travaillé sur Morrowind, un tout petit peu sur Oblivion à l'époque, mais c'était une catastrophe. Il était géré par deux sociétés de localisation en même temps, donc c'était qui ne se parlaient pas. Donc c'était voilà. Et après, j'avais raccroché Skyrim aussi. Et donc, depuis le temps, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pu travailler sur les Elder Scrolls. Donc ce serait... Ouais, je l'ai coché sur mon planning, mais il faudra voir après, tu vois. C'est pas moi qui vais décider.
Hein. Si Todd Howard nous écoute, voilà, pensez à Eric pour la traduction de...
Si on peut filer un petit coup de main, voilà.
Peut-être, Eric, est-ce qu'éventuellement, s'il y a des jeux où ça a déjà été communiqué, est-ce qu'il y a des jeux qui ont déjà été annoncés sur lesquels tu peux communiquer facilement ou vraiment tu peux rien dire?
Il y en a un sur lequel je pensais pouvoir communiquer, tu vois. Et j'ai demandé la semaine dernière, on m'a dit, écoute, dans le doute, il vaut mieux éviter. Donc j'évite.
Écoute, ce sera la surprise jusqu'au bout.
Les deux, trois derniers mois ont été un peu plus calmes, parce que c'est vrai qu'on avait un jeu prévu là pour cet hiver qui a été repoussé au printemps. Donc là, ça redémarre gentiment. On a quelques projets sympas. Mais là, je peux.
Ok, écoute, on aura essayé en tout cas. On aura essayé. Bon, écoutez messieurs, je pense qu'on peut, on peut conclure ici. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre travail surtout. Je le redis, jouer à Citizen Sleeper, c'est vraiment un jeu magnifique. J'ai vraiment adoré. N'hésitez pas à lire Frontières aussi. Vraiment, j'insiste aussi parce que c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, t'es content des premiers retours, j'imagine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une critique assez bonne sur ta bande dessinée.
Ouais, c'est mon bouquin qui a le plus d'envolée, en tout cas dans les médias et dans les ventes, donc je suis super content. Ouais.
C'est super année. Super, ça fait plaisir. Merci encore une fois Eric et Guillaume, et puis peut-être à une prochaine fois pour Citizen Sleeper 2, on sait pas, on verra.
Ah, ça serait bien, ouais.
Ça serait avec plaisir.
Allez, salut tout le monde.
Salut.
Au revoir, merci.